One day, each time you do this exercise, pick up the practice pack of cigarettes. Now, pick it up now. Now, looking at the picture, beat out the I will not smoke rhythm. Are you ready?
Ladies and gentlemen, if you please take.
Mesdames, messieurs, pouvez-vous reprendre vos sièges? Nous allons recommencer la séance. Nous avons le président de ICANN qui va vous adresser la parole. Merci. Est-ce que je peux avoir le micro, s'il vous plaît? Merci. Donc, bon après-midi, tout le monde. Merci d'assister à cette séance qui va se traiter d'un sujet important. On veut que les scribes enregistrent ces discussions. On va donc, avant de commencer, je vais vous donner des annonces générales. Il faut dire que, par exemple, il y a le code de conduite pour les réunions et je veux vous rappeler comment ça se dérouler. Donc, et nous devons les informer, notamment à ceux qui n'ont pas assisté aux réunions à Cannes auparavant. Par exemple, il y a des règles à respecter. La manière de se conduire. Nous encourageons les participants à communiquer et nous avons des gens qui ont des vues très différentes. Et nous pensons que c'est en fait ce qui est c'est bien. Beaucoup de cultures différentes, beaucoup d'aspects sur la vie différents. Il faut que nous communiquions, quels que soient nos désaccords. Ce processus de communication est d'avoir une bonne écoute en ce qui concerne les autres. Il faut également être responsable pour nos mots et nos actions. On est tous des adultes et on veut essayer d'améliorer le processus de police d'ICANN et le renforcer. Donc, essayons de garder les critiques constructives. Et notamment, et soyez tolérants des différences des autres. Et donc, notre réunion cet après-midi a à voir avec les nouvelles GTLD et les droits entre les registraires et les registres. Il y a certains débats et certaines positions en ce qui concerne ce sujet, notamment dans le guide. Donc, une bonne manière d'aider les protagonistes et vous, c'est d'avoir un groupe qui pourrait mettre en place un débat, qui pourrait avoir les parties qui représentent des vues différentes mais bien définies. Je n'ai pas l'intention de toutes les réviser. On a pris donc des gens qui ont été constructifs et ont mis ensemble des points de vue différents, mais très clairs, entre les registraires et les registres, et la manière dont ils doivent se référer aux nouvelles GTLD. Donc, brièvement, on a commencé en novembre 2007 à une réunion. Les recommandations et les points de vue ont été mis en avant. Et on a dû avoir une étude et les critères de séparation. On a eu un rapport publié avec des recommandations associées. Et depuis ce temps-là, les discussions ont décollé. Donc, je vais vous présenter. Baron Cute va commencer pour environ 10 ou 12 minutes. Un sommaire d'un cas de son point de vue. Et ensuite, nous aurons une réponse de Richard Tindall qui représente un point de vue différent pendant 10 ou 12 minutes. Et ensuite, de manière coopérative, on va développer les points clés de différence entre les deux. Et on va en discuter. Richard va commencer d'abord. Il y aura une réponse de Gary, de Brian, sorry. Donc, on a 1h30. Et on pense que ça va durer environ une heure. Et ensuite, on aura 20 ou 30 minutes de questions. Je vais demander à Brian de commencer, s'il vous plaît. Merci, Peter. Merci. Donc, on va présenter notre point de vue. D'abord, quels sont les problèmes auxquels nous devons faire face ? Séparation des fonctions des registraires et des registres. La manière dont on les voit, est-ce que les registraires pourraient être autorisés à être des registres pour leur propre TLD ? Les contrats, deuxième question, est-ce qu'on doit renverser la politique de ICANN avec des registraires affiliés ? Troisièmement, est-ce que les analyses d'ICANN sont suffisantes pour renverser cette politique? Prochaine diapo. Quelle est notre position? Beaucoup de mes commentaires ont à voir avec la majorité de positions concernant ICANN. Nous pensons que la politique existante, la police qui existe doit être maintenue, notamment les registres et les opérateurs et leurs affiliés ne devraient pas distribuer les noms de domaine dans leur propre TLD. Notre position également a à voir certaines exceptions. Nous avons vu le rapport Cray. Il y avait un simple registre RTLD et un autre qui était basé sur la communauté. On a vu les contours du modèle TLD. ICANN a fait une intégration qui a à voir avec les problèmes qui puissent avoir avec la nature du modèle. Donc, quelle est la politique d'ICANN? Et ça nous a posé pour eux le problème. Lundi dernier, avec Richard, on a évalué les contours de la politique. Les revenus et assets du registre ne devraient pas être désavantagés par rapport aux registres qui ne sont pas affiliés. Donc, depuis... Ce n'est pas un problème de limitation. Donc, si on continue cette police, on n'a pas de problème avec le full ownership. Quelle est la question concernant les mécanismes pour mettre en place, pour les mettre en place et les renforcer en ce qui concerne les demandes non discriminatoires, les modèles de certification et les programmes associés, et notamment les caps d'ownership. Donc, la question dont nous devons faire face, est-ce que ICANN va changer cette politique? Est-ce qu'on va, par exemple, autoriser la séparation des registres et des registrars? Les économistes ont dit que si vous voulez avoir une intégration verticale, il faut éliminer l'appartenance croisée. En fait, on devrait être efficace de manière dans le domaine économique. Ou alors, est-ce que ICANN doit changer les mécanismes de mise en place dans le cas où il y a une propriété croisée? Quelles sont les demandes et les réponses que nous devons avoir dans le cas des abus? Notre proposition est d'arrêter la prohibition. La majorité, il faut essayer d'arrêter la prohibition des TLD, car cela leur permet d'être protégés. Quels sont les abus des données? Pour décrire le jeu, la manière dont il se produit actuellement, par exemple, les données peuvent être utilisées au détriment des registraires. En général, si vous allez à la diapo suivante, vous verrez par exemple que les gens peuvent discriminer d'une manière ou d'une autre. Ils sont également poussés à faire des trades intérieurs. Et également, il y a des problèmes de risques d'abus dans le trafic, et notamment les domaines de nom. Durant les dernières semaines, on a fait une étude sur les 59 registraires qui sont représentatifs tout autour du monde. Presque 70 sont opposés au change de politique et 80% ont beaucoup de soucis concernant l'accès et la mauvaise utilisation des ressources. Et nous avons un site web et on mettra les résultats sur le web. Comment est-ce que ce jeu est mis en place? Au niveau générique de haut niveau, cela a à voir l'identification des domaines de grande valeur et le faire le moins cher possible. Et par exemple, il y a des problèmes dans le domaine du marché. Et par exemple, est-ce qu'on peut les vendre à un premium? Ou alors, on a vu, garder le domaine pour essayer de le moderniser. ce qui est un genre de mise en magasin. Il y a aussi la pratique qui représente des revenus pour beaucoup de registraires. Comment l'avons-nous fait dans le passé? Vous êtes familier du test de domaine. En fait, ICANN a adopté un mécanisme pour tester les noms de domaine sur la place du marché pour voir s'il y avait beaucoup de trafic associé à ces noms et pour voir si on pouvait les vendre au marché secondaire. C'est juste des pratiques spécifiques du jeu d'identification des noms. Donc les noms en avant ont essayé d'être pris par des registreurs potentiels et ont essayé de les mettre disponibles dans un registre unique. Si vous avez plus de problèmes dans l'aspect générique, vous avez un rapport très détaillé là-dessus que vous pouvez voir. Mais voilà, au sein du problème de la politique, ces pratiques qui pourraient être améliorées si la politique avait été changée.
Une modification de la politique pourrait d'un côté permettre INOM, ça leur donnerait la gestion de leurs propres données, de celles de leurs concurrents en matière de TLD, et voilà, ils pourront voir toutes les demandes relatives au nom de domaine, qu'ils soient existants ou non. Ils verront le trafic DNS. Ils sauront exactement quand les noms seront supprimés. Ils auront exactement ça. Et certains, ils pourront également, ils auront un moteur qui permettra de continuer pour détourner ou pour augmenter leur profitabilité. Et les registrants perdront quoi? Ils perdront, donc si ça se prolifère, ils seront désavantagés. Les noms de domaine ne seront pas disponibles dans le système, donc il y aura une paucité de noms. Ils paieront plus cher en raison de la mise aux enchères. Et ceux qui, d'habitude, seraient les premiers servis parce qu'ils sont les premiers arrivés, ils devront payer plusieurs fois ce qu'ils se payaient autrefois. Et en fait, ce qui est très important aussi, parce que nous pensons qu'il y a deux problèmes, c'est est-ce qu'on change le lancement, mais aussi le dispositif de mise en conformité pour trouver ses comportements et les interrompre, les arrêter. Tout le monde va y perdre parce qu'une fois qu'on a vu ce qui se passe au moment où il y a ce goûtage, on essaye un peu. Donc, qu'est-ce qui se passe pour l'avenir? Il nous faut un dispositif pour déceler à temps ces objectifs et pour conserver tous les avantages pour l'ensemble du marché. Donc, pour clarifier nos positions, nous voulons une position de supermajorité. Nous voulons que ça soit géré par la base. Nous voulons que ce soit basé sur des faits, des preuves et qu'on puisse en tirer des conclusions. Et la position contraire, c'est que ce n'est pas une position du regroupement des registraires. C'est simplement une poignée de grands registraires qui ont cette position, comme nous l'indique notre sondage. Et là, pour terminer, en ce qui concerne pour cette analyse depuis la base, voilà ce qu'on pense. Pour nous, voilà ce qui est la vérité, ce qui est une légende. Donc, INOM dit que est-ce qu'un registre devrait être autorisé à posséder un registraire? Donc, pour nous, ce n'est pas une question. Ou est-ce qu'un fabricant peut posséder plusieurs magasins, nous voulons soutenir les participations croisées. Ce que INOM a dit également, c'est que ce qu'on demande, ce n'est pas une modification de politique d'ICANN. si on regarde les contrats de l'an 2000, ça marchait bien, il n'y avait pas d'abus. Et en fait, pour nous, cette politique s'était forcée pour limiter le partage des données et pour contenir les abus de partage entre les registres et les registraires. Et il y avait un code de conduite qui cherchait à maintenir cette politique, à la faire à l'encontre du partage et des abus. Et en fin de compte, donc, il faut vous se demander c'est quoi la raison, quels sont leurs motifs. Et oui, cette diapo indique bien qu'on a été assez vite là, pour préparer cette présentation. Les registres pourraient enterrer des avantages, effectivement, oui. On pourrait vendre ses propres TLD, c'est très intéressant pour les registres. Notre préoccupation, c'est ce qui se passe sur le marché. Et c'est la qualité du vécu du registrant. Et c'est la protection à long terme, et la santé à long terme du secteur. Nous avons beaucoup d'affiliés, mais pour nous, c'est un point important pour protéger les registrants. Donc, c'est quoi leur motif, d'un côté, avec cette... en tant qu'ils pourraient, s'ils étaient autorisés à être les deux, ils pourraient vendre de façon directe. Et si, comme registraire, ils continueraient à profiter d'une égalité de l'accès et d'une absence de discrimination qui sont imposées, c'est des obligations qui sont imposées au registre. Merci, Ron. Merci beaucoup pour votre clarté, votre rapidité. C'est une discussion très complexe, j'ai trouvé très intéressant. Richard, vous avez une durée égale pour expliquer votre position. Richard Tindall, vous m'entendez? Je présente donc le débat dans le sens d'une participation croisée. Donc, ce débat, c'est quoi? Déjà, les registres, on va dire que ce sont des producteurs, tandis que les registraires sont les magasins de détail. Donc, est-ce qu'un producteur doit être autorisé à posséder un des magasins de détail qui vend son produit au public? Quand c'est le producteur qui détient le magasin, on appelle ça l'intégration verticale. Et par exemple, c'est Apple Computer. La société Apple Inc. vend des ordinateurs à des tas de magasins, par exemple, et partout jusque dans votre voisinage. Mais ils vendent également directement par leur propre magasin. Et donc, notre question, c'est est-ce qu'Apple a le droit d'utiliser ses propres magasins de détail pour vendre sa production? Ou est-ce qu'Apple doit être obligé de vendre ses produits uniquement par les magasins d'autrui? En fait, c'est ça la question qui est devant nous. Donc, examinons le modèle actuel pour les noms de domaines de premier niveau. En mauve, cette forme, ce trapèze en haut, cette forme, enfin, voilà, ça, c'est un soutien technique. En vert, là, on voit le registre que j'ai appelé .xyz. Un registre peut avoir un fournisseur de soutien technique. Peut-être qu'il le fait lui-même. Bon, c'est deux choses qui peuvent être une ou une même entité ou ils peuvent être séparés. Ensuite, le registre propose des noms à un certain nombre de registraires. Ici, j'ai cinq registraires. Et ces registraires communiquent avec le registre. Et certains d'entre eux, par exemple le numéro 2, là, est un revendeur. Et donc, il vend des noms par l'intermédiaire d'un revendeur qui peut le mélanger à d'autres produits, à ses consommateurs. Mais bon, dans tous les cas, les registraires, qu'ils aillent directement à leurs consommateurs ou ils sont donc en liaison. Je vais déjà parler des points d'accord dans cette discussion, là où il n'y a pas de désaccord entre Brian et moi-même. Tout d'abord, nous sommes d'accord sur le modèle qui ne changera pas. Ce modèle, nous n'irons pas le changer. Nous sommes également d'accord sur le fait que le registre ne peut pas vendre directement au registrant. Et donc, le parti là, qui aura le. Donc, il ne vendra pas directement au consommateur. Donc, le vert, là, le rond vert, ne vendra pas directement au registrant. Nous sommes également d'accord qu'il devra avoir un accès ouvert à tous les registraires. Dans le modèle en question, il y a 5 registraires qui sont rattachés au registre et devront pouvoir, s'il y avait 7, 8, 500 même registraires, ils seraient rattachés à ce registre. Quatrièmement, il doit y avoir un traitement égalitaire. Le registre, encore une fois, doit traiter tous ces registraires de façon tout à fait égale. Enfin, point numéro 5, nous sommes bien d'accord sur le fait que le registre peut posséder une partie d'un registraire au sein de son domaine de premier niveau. On est d'accord, par exemple, que le registraire 4 en bleu et que le registre en vert, que le registre peut détenir une partie du carré bleu. Il n'y a pas de désaccord sur ces points. Donc, en quoi consiste la différence dans nos positions respectives? La différence est de 2%. La position est que le registre doit détenir 49% ou moins d'un registraire dans un domaine de premier défaut. Et selon nous, le registre peut choisir d'avoir 51% ou plus. Je vais m'arrêter là un instant parce que c'est très important et je veux vraiment souligner. C'est une différence essentielle entre la proposition et cette position de la supermajorité des regroupements. Donc c'est ça l'essentiel de la différence. Qu'est-ce que ça voudrait dire en pratique ? Vous avez peut-être du mal à lire ce qui est en bleu, là. Vous arrivez à lire la boîte, le carré bleu. Donc, vous voyez que là, maintenant, on est bien d'accord. Il est possible de tenir une partie du registraire 4. Le premier, c'est 49%. Et pour nous, c'est la position d'en bas, c'est le registre peut détenir 51%. Donc, ce que nous voulons, c'est une intégration verticale pour qu'un registre puisse contrôler en détenant 50% ou plus d'un registraire qui vend des noms dans son domaine de premier niveau. Et, sauf si le registre, sauf si je modifie, donc si l'ensemble registre et registraire et détient le marché ou est limité en prix. Si le registre a limité en prix, des choses qu'on demande ne conviennent pas et il faut des contrôles. Mais comme je vais en parler, lorsque le registre n'est pas bloqué au niveau des prix, comme la plupart des TLD le sauront, eh bien, il n'y a pas de préoccupation valable. Donc, est-ce qu'on est en train de demander quelque chose de nouveau ? Mais non. La disposition que nous demandons, c'est-à-dire cette intégration verticale, avait été prévue dans les contrats suivants. L'accord BIS 2001-2006, celui ORG 2003-2006, Info 2001-2006, et c'est pendant 6 ans, ils ont déjà cette disposition qui est demandée. Brian a parlé d'un certain nombre de protections, de garde-fous qui nous conviennent. Comme vous voulez voir, il y a d'autres accords, d'autres contrats où cette question d'intégration verticale où le registre détient plus de 51% du registraire est prévue. et pendant une période déjà longue. Des millions de noms ont été enregistrés. Donc ça fait longtemps. Et c'est une position de longue date, ICANN, et de cette intégration verticale, et qui est tout à fait permise. Donc, je vais lire un extrait de l'accord Info, la section 3.5, qui parle du traitement des registres, qui n'empêchera pas un affilié d'un opérateur de registre, ne l'empêchera pas. Donc, ne sera pas empêché d'agir en tant que registraire par rapport au domaine de premier niveau du registre. Comme je l'ai dit, ce contrat contient également des garde-fous. Donc on va revenir là. C'est à savoir que voilà les sauvegardes en question, c'est les garde-fous qui nous conviennent. Alors, quelle est la position d'ICANN sur l'intégration verticale en 2001? Ceci indique donc la représente la position d'ICANN. Il n'y a pas de valeur à bloquer la concurrence en empêchant les registres de détenir les registres de façon à ne pas discriminer contre les concurrents. Il y a un historique long et complet de contrats qui contiennent l'intégration verticale. Y a-t-il eu des problèmes? Est-ce qu'il y a eu des abus? Est-ce qu'il y a eu des prix hors normes? Est-ce qu'il y a eu une discrimination à l'encontre des autres registres? Non. Pour tous ces 8 contrats, ces millions de noms, est-ce qu'on a vu ce phénomène, ces phénomènes? Et selon moi, on peut dire que non. Est-ce que ce modèle que nous proposons est inhabituel dans d'autres secteurs? Non, l'intégration verticale existe dans presque tous les autres secteurs. Les producteurs d'équipements médicaux, de logiciels, de télé, de dentifrice et autres peuvent posséder un magasin qui vend directement à leurs consommateurs. Et en général, ces producteurs vendent également par des magasins de détail indépendants. Ce qui les aide à en vendre davantage. Donc, on ne réfléchit pas d'habitude à cette question d'intégration verticale dans d'autres secteurs. Et en fait, on trouverait bizarre qu'un producteur dans un autre secteur n'était pas autorisé à vendre directement. Ça serait vu comme étant une exception. Et c'est moins commun chez nous parce que dans notre secteur, le secteur vendait avec cette question de monopole et de plafonnement des prix. Il y a eu donc des contrôles également pour empêcher d'avoir ces magasins de détail. Mais ça existait. Je vais donner un exemple d'un autre secteur. J'espère que vous pourrez lire. Voilà. Ici, vous voyez la société Apple Inc. qui fabrique des notebooks. Ils les vendent des MacBooks par les magasins Staples, Amazon, Costco. Ils vendent par leur propre réseau de magasins Apple et par d'autres magasins de quartier. Voilà. Donc, comment l'intégration verticale avantage-t-elle les consommateurs? Alors, il y a un rapport sur la concurrence et ses experts et la plupart des documents qui existent sur ce sujet. L'intégration verticale a les avantages suivants pour les consommateurs. D'abord, pour les prix. Lorsqu'un producteur possède un magasin, il y a une efficacité au niveau de la distribution et de la concurrence et les prix sont plus faibles. Il y a également plus d'innovation. Les producteurs qui ont un magasin sont plus risquent d'innover davantage parce qu'ils ont plus de contrôle sur les prestations de services. Si on n'a pas de magasin où on peut où fournir un nouveau système, il faut persuader quelqu'un d'autre de prendre en charge ce service, ce sur quoi ils peuvent être d'accord ou non. Le service et la sécurité. Les fabricants s'intéressent davantage à la valeur et la sécurité de leurs marques d'autres. Par exemple, Apple s'intéresse davantage à la valeur et à la sécurité de ses produits que Costco. Ça ne veut pas dire que Costco ne s'y intéresse pas. Mais c'est simplement que les magasins Apple seront plus sûrs, apporteront davantage aux consommateurs pour ses propres produits.
Donc, précisons ce que nous avons dit auparavant. S'il y a un plafonnement des prix, tous ces avantages potentiels sont un risque. L'argument pour l'intégration verticale n'est pas aussi forte s'il y a des plafonnements de prix. Pourquoi est-ce que c'est un problème maintenant? On a beaucoup d'années d'intégration verticale, comme j'en ai discuté auparavant dans les contrats. Bon, où en sommes-nous maintenant? On a des problèmes avec dans les affaires de registre. Par exemple, je vous donne un exemple. Par exemple, vous avez une compétition entre NSI et Nostar qui veulent faire une application pour movie. .movie. .movie. Si le plan de Ryan de séparation verticale devient la politique, l'appliquant movie, qu'en sélectant NSI comme son ne peut pas être résolu à travers NSI en tant que registraire. Ils savent que NSI est un registraire de qualité. Ils voudraient avoir leur nom vendu par NSI. Donc le TLD Movie n'a pas vraiment d'incentif à choisir NSI, car les canaux de distribution ne sont pas appropriés pour le Dot Movie. Donc Brown a expliqué certains aspects mis en avant. Par exemple, que le registre va discriminer sur les registraires non affiliés, qu'il y aura une mauvaise utilisation, il y aura des insider trading, il y aura également des problèmes de trafic et de problèmes de données et accroissement des prix. Je pense que votre temps est fini. C'est ma dernière diapo. Pour chaque demande que nous devons examiner, regardons quelles sont les allégations spécifiques. Par exemple, pour la mauvaise utilisation, comment est-ce que le registre ferait par rapport aux problèmes qu'on leur a mis en place? Est-ce que cette mauvaise utilisation arriverait avec ou non l'intégration verticale? Est-ce que cette mauvaise utilisation est arrivée s'il y avait des contrats d'intégration verticale? Est-ce que cette mauvaise utilisation a lieu dans d'autres industries où il n'y a pas déjà une intégration verticale? Et je vais donc m'arrêter de manière à ce qu'on ait un temps égal. Il y a d'autres choses à considérer avant les questions. Donc, on a eu un sommaire des cas différents, des deux parties en présence. Et je vous remercie pour la clarité de vos présentations. Et on comprend la complexité de ces problèmes. Ce qu'on va faire maintenant, donc il y a 3 ou 4 éléments clés dont on veut l'examiner en profondeur. Richard va commencer. Quelle est la politique actuelle et basée sur quelle histoire? Donc, la politique en place par rapport à l'intégration verticale a été variés. Il y a eu des contrats qui ont permis de ce que les gens demandaient. Il y a d'autres contrats qui n'ont pas autorisé les gens à faire ce qu'ils voulaient par rapport à l'intégration verticale. Donc il y a un mix de contrats, un mélange des contrats. Et d'après moi, le point important de cette discussion par rapport à la politique a à voir à d'où vient la politique. En fait, cela nous vient du contrat .com. Les règles qu'on a mises ensemble pour les registres et registraires sont une issue directe du monopole de .com. Certains de ces contrats, en fait, sont revenus à une situation qui ont été mises en place avec l'intégration verticale. D'autres se réfèrent à la séparation. La raison pour laquelle ils ont utilisé de cette façon, c'est parce que le contrat .com de 2006 a mis ces éléments précisément en place. Donc la politique a été poursuivie parce qu'il est arrivé à .com, à .com. Et il est nécessaire que les mauvaises politiques auparavant ne soient pas remises en question dans le nouveau contrat. Par exemple, si on a 18 millions de noms, on ne pense pas que les mêmes règles doivent s'appliquer au nouveau registre par rapport à celles qui étaient appliquées pour .com. Nous avons tendance à traiter le magasin du coin avec les mêmes règles pour Walmart, pour les supermarchés. Brian, votre vue concernant la politique actuelle. Je ne sais pas si vous m'appelez comme étant un magasin de quartier. Est-ce que je dois me sentir offensé? Oh, ça m'est égal. Il y a une distinction entre la politique et, comme je dis dans ma présentation, en ce qui concerne les données et la compétition associée et également les problèmes de prix qu'on rencontre. Et la politique a été consistante à travers le temps, mais les mécanismes d'application ont varié. Et cela remonte en temps, comme Richard nous l'a dit. En fait, une des raisons pour lesquelles les contrats de 2005 ont été problématiques, c'est parce que on n'a pas pu mettre en place des mécanismes d'application. Et on dit qu'en fait, l'interdiction de vendre dans vos propres TLD a marché relativement bien. On n'a pas vu les cas d'abus des registres dans le cas des TLD. Donc on pense que c'est facile à mettre en place. On ne veut pas revenir au bon vieux temps où c'était en eau trouble, où les codes de conduite avaient des prix différents avec des pénalités de 10 000 ou 100 000 dollars. Nous ne pensons pas que c'est le moyen de l'avenir concernant ICANN ou la communauté. Une réponse rapide? Moi, je suis le magasin de Mary. Non, on n'a pas l'intention de revenir aux termes complexes. On veut se référer aux contacts, aux contrats qui sont très simples. ICANN est le propriétaire du registre et contrôle le registre dans les TLD. Voilà ce que dit votre contrat. Il y a également des mises en place de sécurité. Donc, nous voulons que ce contrat soit appliqué. Quels sont vos modèles proposés? Et quels sont leurs buts par rapport aux registraires? Ce qu'on a dit dans les diapos, on est pour la continuation de la prohibition, car c'est facile à enforcer. Les abus et les diapos ont montré que en tant que registre avec des relations dans les registraires, c'est un sujet difficile. Quand vous combinez un grossiste et un détaillant, il y aura des problèmes. Et certains sont poussés à tricher, et dans les noms de domaine notamment. Notre point principal a à voir avec les nouveaux TLD, et nous pensons qu'on a une chance unique d'améliorer le système en ce qui concerne les affiliés. On a également un intérêt unique en ce qui concerne la qualité du marché, introduction de la compétition, qui, à mon avis, est une bonne chose. Mais évidemment, l'impact sur les registraires va être important. Et ce sont eux qui vont nous dire si c'est un succès ou pas. Ils vont nous dire quelles sont les conséquences sur le marché. D'accord. Richard, vous n'avez pas vraiment compris la question sur les coûts à renforcer. Les mécanismes associés sont très chers. Avez-vous un commentaire là-dessus? Non, je ne suis pas d'accord. Moi, je suis un des parties prenantes. J'avais un contrat. En tant qu'opérateur, il y a des coûts, oui. Mais je ne pense pas que c'était extraordinaire. Si ces registres actent normalement dans un marché compétitif, ils ne pouvaient pas abuser le système. Et on a mis des règlements en place pour un usage potentiel de ceux qui veulent mal utiliser le système. Donc je ne pense pas que ces coûts soient vraiment hors du commun. Si les nouveaux TLD, évidemment, deviennent très puissants dans ce cas-là, il faut peut-être réviser leur place au sein du marché. On ne peut pas avoir 100 TLD avec une puissance de marché. Par définition, .com, par exemple, a perdu sa puissance de marché. Donc, ce qu'on essaie d'avoir, c'est un petit nombre de TLD qui ont une puissance dans le marché. Et à mon avis, les coûts associés aux bons TLD ne sont pas très chers. Ouais, vous avez, par exemple, parlé du mauvais usage des traders, de l'insider trading. Avez-vous eu des exemples? Et si ça... Ouais, il y avait des structures intégrées. Et on en a parlé auparavant, et on n'était pas tellement au courant de ce qui se passait. Donc ça a été une manière d'évaluer les coûts et de voir est-ce qu'il y avait des problèmes pour les registraires, et notamment les conséquences pour ICANN. Donc il y a une distinction à voir entre les deux problèmes. Donc l'autre... Richard veut donner une réponse là-dessus. Je veux parler du problème des données. Est-ce que vous pouvez remettre ma diapo, s'il vous plaît? Je parlais de la mauvaise utilisation des données. Quel est le sujet là-dessus? Et je veux donc revenir à une de mes diapos. Est-ce que vous l'avez? Parlons de la mauvaise utilisation des données. Et quand on commence à voir ce qui se passe de près, de quelles données parlons-nous? On ne parle pas des registraires, parce que ces données sont dans le domaine public et peuvent être accédées par tous les registraires. Moi, je parle de la mauvaise utilisation de données spécifiques, par exemple les transactions, transferts, etc. Non, parce que ça, c'est également dans le domaine public. Donc, vous pouvez avoir les statistiques détaillées sur les activités des registraires, les formes de transactions avec les TLD. Donc, ces données et dans le domaine public gratuit. Dans le trafic de DNS, un registre prend environ 20% de DNS. Donc une petite portion des demandes sur les noms de registres. Donc regardons le modèle dont je vous ai parlé auparavant. Et prenons un scénario où il y aurait, par exemple, les registraires sont complètement indépendants et ne sont pas la propriété des registres. Par exemple, le registre. À n'importe quel niveau, a fait des enquêtes sur les données. Et ils ont vu que si le nom était libre ou pas. Est-ce que ce nom peut être acheté? Le registre vérifie que les données sont disponibles ou pas. À savoir si ce nom peut être pris par le registre. Est-ce qu'il y a un problème d'intégration? S'il n'y a pas de prix limite, si le registre voit toutes ces données pour, par exemple, augmenter ses prix, peut-être qu'il le fait. Mais le problème est propriétaire du registreur ou pas, en fait, n'a rien à voir avec le mauvais usage des données. Par exemple, aujourd'hui, un registre peut voir ce type de données et ils peuvent, par exemple, l'utiliser de manière frauduleuse. Mais en fait, il n'y a pas de relation spécifique entre les deux. Donc, quels sont vos commentaires, Brian? Les registres ont déjà vu une utilisation frauduleuse. C'est-à-dire que les registres ne voient pas les données complètes. Ils voient simplement les noms dont on fait les enquêtes le plus souvent possible. Et parfois, ils prennent avantage de cette situation. Ça n'a rien à voir avec la propriété. Je ne sais pas pourquoi on parle de la propriété. Il faut supprimer et bloquer les registres utilisés des TLD. Certains ont suggéré que les registraires puissent s'agglomérer, se mettre ensemble et puissent avoir accès à l'univers des data, des données. Et ça va arriver dans le futur. Ce scénario, à mon avis, cette conduite, est-ce qu'on doit l'encourager ou pas? Quels seraient les problèmes associés à partager ce genre de données? À mon avis, il y a des mécanismes à mettre en place en ce qui concerne ce problème.
Vous avez répondu à cette commission comme si c'était le registraire, mais en fait, c'est le registre qui pourrait utiliser ceci à mauvais escient, mais ils ne le font pas, en fin de compte. En fait, vous avez répondu pour les registraires. Oui, je parlais dans le contexte de l'intégration. Donc, Roger dit que ça ne change rien à la capacité d'utiliser à mauvais escient. Donc, parce qu'on ne vend pas nous n'avons pas de participation, nous n'avons pas de canal de distribution. Peut-être que quelque chose m'a échappé. En fait, la préoccupation, c'est que le registre va chercher à exploiter cet avantage pour en tirer un meilleur prix. Mais ça, c'est possible là où il n'y a pas de plafonnement. Mais est-ce que les registres le feront? C'est une question, c'est vraiment une question totalement différente de l'intégration verticale. En fait, ça n'a pas changé parce que les noms de domaine de premier niveau seront en concurrence. Donc, si j'en ai un et je pense que ça vaut 8 dollars par le nom, je serai en concurrence avec d'autres dans le marché. Est-ce que les registres, bon, quelque part, est-ce que j'ai des données qui vont permettre d'augmenter le prix? C'est une question d'offre et de demande. Peut-être que je vais l'augmenter de 8 à 10 dollars. Mais encore, cette question de participation ne change rien à ma capacité d'augmenter le prix. On va passer maintenant à deux questions rapides. Brian, quel est l'aspect le plus négatif de leur proposition là? Je pense que le problème, c'est cet accès aux données. Et que ça, c'est vraiment la limite. On risque de changer de politique, de nouveaux rôles, nouvel accès. Et il y a eu une période de grâce et on n'a pas eu de test. Ça s'est fait. Et puis, en fait, on a eu. En fait, selon nous, nous sommes convaincus que de déceler ces comportements, c'est important pour ICANN qui a un rôle de respect, d'application des normes. Donc, si on complexifie les choses, si on les complique, c'est vraiment pas une chose à faire. Donc, ça sera plus difficile pour nous au niveau du respect. C'est ça pour ICANN. C'est ça que vous pensez? Oui, mais également, et qu'il y aura également peut-être cette incapacité à déceler à temps. Donc, Richard, à vous, qu'est-ce qui est l'aspect le plus négatif de leur proposition? Je pense que la chose la plus négative, c'est l'idée que nous allons essayer de gêner les nouveaux, des petits TLD nouveaux et très concurrentiels. Et en fait, là, ma préoccupation, c'est qu'on gêne la concurrence des nouveaux TLD en leur imposant des règles supplémentaire. On a eu une tendance à le faire avec les nouveaux TLD. Je pense que c'est une des raisons pour laquelle il n'y a pas une véritable réussite précédemment avec les anciens domaines de premier niveau. Mais donc, on ne va pas faire cette erreur cette fois-ci. Ces nouveaux TLD devraient pouvoir être en concurrence ouverte. Et s'ils arrivent à avoir une part de marché telle qu'elle nous inquiète, alors on pourra mettre un règlement. Mais on ne va pas mettre des règlements avant, pas par avance. Et on ne va pas les gêner, ces petits TLD en concurrence avec donc, les grosses, les règles qu'on a mises pour les grosses. Donc, est-ce que on peut se rapprocher un peu. Donc, quel serait le compromis entre votre position et la position de Brian? Et j'aurai la même pour vous tout à l'heure. Donc, Richard, quel compromis peut s'envisager là? Brian pourrait évidemment nous céder le pas. Il pourrait abandonner sa position. Et Brian, est-ce que vous allez être aussi facile que ça? Non. Donc, je vais essayer autre chose. Voilà. Un compromis très réfléchi avait été proposé au mois de mars lors d'un forum de discussion sur ce thème dont on discute depuis près d'un an. Et ce compromis très efficace pourrait limiter la capacité d'un opérateur de registre d'aller au-delà de 100 000 noms. Donc, si un nouveau TLD avait un succès considérable et avait un million de noms pour un nouveau TLD, l'opérateur ou son détenteur serait limité à 10 % de ces noms. Donc, c'était un compromis de prudence, une position de prudence. Nous étions d'accord avec il y a 10 mois. Et depuis, la discussion s'est rouverte depuis et je pense que son compromis était valable. Brian, non, ça, c'est pas un compromis. De permettre une vente directe jusqu'à 100 000, c'est une vente directe. Il n'y a pas à tergiverser. mais il y a des noms extrêmement valables dans ces 100 000 premiers noms. Et donc, donner cette liberté totale, et ça permettrait d'écrémer la liste. Donc, pour nous, ce n'est pas un compromis. Je suis contente de voir que Richard parle que s'il y avait une cohérence, il serait d'accord avec l'interdiction. Mais en fait, je ne voudrais pas à ce qu'on revienne au code de conduite, aux problèmes de mise en application, etc. Donc, 600 000, ça ne marche pas. Donc, est-ce que 98 000 ou 52 000, ou est-ce qu'il y a un chiffre qui marcherait selon vous? Donc, je sais que vous les avez longuement discutés. Ben alors, donc, il y a des précédents. Par exemple, le point muséum avait 5 000 plafond. Donc, il y avait des précédents. Et donc, en fait, c'était cette question de la nature même du domaine de premier niveau. Et donc, ça dépend de la structure du modèle. On peut permettre une certaine intégration parce qu'il y a des risques qui ne sont pas trop élevés. Et on pourrait cibler ça. Donc, une dernière chose, et puis après, on va ouvrir dans le contrat point muséum, il y avait une capacité totale pour cette. Il n'y avait pas de limite de 100 000, de 20 millions, la limite de 5 000 à laquelle on fait référence. C'est simplement ce qu'il pouvait détenir pour lui-même. En fait, il y avait un nombre illimité, etc. Point, comme les autres. Mesdames et messieurs, donc vous voyez là les problèmes qui sont devant le directoire, qui ont été très bien exprimés avec passion et des positions contrairement. Et là, vous voyez un peu comment ça se passe au directoire. Et en fait, le personnel de DICAN doit travailler là-dessus, présenter une recommandation. Et voilà comment ça se passe pour eux. C'est un cauchemar. Et évidemment, ils ne peuvent jamais réussir. Il y a un côté où les deux se sentent malmenés, découragés. Et donc, vous voyez que c'est très difficile. Il y a toutes sortes de positions. Il y a des allégations. On nous propose de nouvelles règles. On nous propose de revenir en arrière. Donc, par exemple, est-ce qu'on peut s'appuyer sur le comportement précédent pour envisager le comportement futur? Qu'est-ce que ça va faire au prix? Est-ce qu'on peut se permettre ce que ça coûte? Et si on avance, et si on se trompe, est-ce qu'on risque de ne jamais pouvoir revenir en arrière? Donc, maintenant, vous avez quelques questions. Je voudrais des personnes qui n'ont aucun rapport avec l'un ou l'autre des intervenants. On ne va pas vous demander votre pièce d'identité, mais je voudrais un point de vue indépendant. On va commencer là, Amadeo. Bienvenue. Bonjour. J'ai un avis, mais est-ce que je voulais déjà expliquer quelque chose concernant la théorie et la question historique? Tout était juste, mais quelque chose que Richard a dit qui me gêne. L'intégration verticale, il y a une certaine rigidité qui n'est pas très importante. C'est une chose, sauf pour une majorité d'économistes américains qui sont en minorité et qui sont devenus une majorité de la position anti-trust. Mais en durant, tout le monde était d'accord. Mais c'est bon, ça c'est une question marginale. Le vrai problème, c'est ce travail. Non seulement une question de puissance, d'emprise sur le marché est bonne, s'il y a une véritable élasticité croisée de la demande. Ce n'est pas l'offre qui marche. Ça n'a pas d'importance. En fait, c'est très interchangeable, cette intégration. En fait, ce n'est pas vraiment le cas en ce qui concerne les TLD. Les registres sont convaincus du fait qu'ils sont en concurrence les uns avec les autres. Les consommateurs en sont nettement moins convaincus. Par exemple, je vais vous limiter là dans le temps parce qu'il y a 14 personnes qui font la queue. S'il y a 2 minutes chacun, on n'aurait même pas le temps là. Donc, vous avez moins de 2 minutes chacun. Parfait. Donc, on va prendre point movie. Point. Si on regarde cette question d'intégration, ou si on change point 4, etc., point chat, parce que le sens est important, qui est certainement plus important que le prix ou le service. Donc, c'est une concurrence imparfaite. C'est pas, s'il n'y a pas de concurrence parfaite dans ce domaine. Et si je demande un registre particulier, je suis coincée parce que si je m'en sers véritablement, c'est donc du côté de la demande, il n'y a pas une véritable élasticité élevée. Et donc, il n'y a pas d'emprise du marché, il n'y a pas d'effet sur le marché dans ce sens-là. Deuxième exemple. Madaïou, je vais vous demander de vous arrêter. Je vais dire 2 minutes, ça fait déjà 4. Non, et la moitié, je l'ai passée à débattre avec vous. Donc, vous avez le choix de son utilisation. Donc, restez bref. Je voudrais que tout le monde... Je ne veux pas de lecture de déclaration. Je voudrais des questions aux membres du panel. Jack Smith, je n'ai aucune relation avec ces deux intervenants. Je suis venu en tant qu'économiste éventuel. Donc, en ce qui concerne l'intégration verticale, il y a deux façons de la mettre en œuvre. D'abord, par la participation aux compétences, mais aussi par les contrats. Et ici, ce que j'ai entendu aujourd'hui concernant l'utilisation des données me semble être une question de code de conduite plus qu'une question de participation aux capitaux. Et donc, ma question pour les deux membres du panel, c'est est-ce que c'est vraiment une question valable? Ce n'est pas plutôt une question de conduite, de comportement? Je dis oui, effectivement, c'est une fausse question. Ce n'est pas une question de participation et c'est une question d'interdiction de vendre. Est-ce que c'est une fausse question? Oui, c'était un peu trop vieux. Je dois dire que je suis toujours en train d'analyser là. C'était trop rapide. Hein. Je ne suis pas économiste. Ce que je ne pouvais pas dire, c'est que si je suis registre, je veux pouvoir distribuer des noms, que ce soit par une relation contractuelle de type participation ou par une relation contractuelle de vente. Voilà. Donc, on veut pouvoir distribuer, vendre. On repasse ici. Je pense qu'il faut rajouter un contexte à ce débat. Ce qu'on essaye de faire, c'est d'introduire des nouveaux TLD tant pour la concurrence que pour l'innovation des noms. Donc, il y a deux erreurs que je veux souligner. La première, c'est que ça a toujours été comme ça, mais en fait, il faut voir une politique dans son contexte. Il y avait une séparation dans un contexte qui était pour .com. C'était un marché très spécial, totalement différent ici. Et la deuxième chose, c'est concernant cette menace de petits TLD qui pourraient, si 5, de 10, 20 000, qui pourraient tirer le meilleur parti, ils feront faillite. Et c'est ça l'innovation. Et il n'y a pas de problème, c'est pas un problème. Ça, mes deux questions pour vous, Brian, c'est il me semble que cette question de respect va dans les deux sens. Cette imposition des 49%, c'est également difficile pour tout le monde. Mais il peut être très intéressant, beaucoup plus difficile que cette obligation d'accès. Donc, ce que je vous demande, comment est-ce que vous feriez, en particulier lorsqu'on a vu ces questions de participation dans tous les domaines? Deuxième point, si j'étais Richard, j'aurais pas du tout parlé de compromis à 100 000, j'aurais dit 1 million, parce que je ne vois pas très bien où est la valeur des données. La valeur des données vient de la poussité. Et la valeur des données, est-ce que ça vient des 100 000? Je vais vous demander à quel niveau est-ce que vous pensez qu'il y a une valeur dans ces données, pour ce traitement abusif dont vous parlez?
Je sais également quelles sont les réponses de Richard. Et les mécanismes de mise en place et de contrôle comment est-ce que ICANN pourrait renforcer les 51% qui étaient dans votre exemple, était en fait directement incontrôlé par les registres. Il est certain que le pourcentage dont on parle est important, car s'ils ont une prohibition qui va dans le futur, il faut faire attention à ce qui va être mis en place par la porte de derrière. Merci. Je vais demander la prochaine question, s'il vous plaît. Merci. Je vais garder ça court. Je m'appelle Daniel Chandler et je suis l'ancien PDG de Centranet. Et moi, je parle. Nous étions un des plus anciens registres avec un portfolio de domaines et nous étions également un opérateur. On a 2000 registraires et on agit au niveau du détail. Et durant sa vie de 15 ans, ces problèmes de propriété croisée ne nous ont jamais posé de problème. Et on a toujours donné un très bon service aux registraires. Donc, à mon avis, je pense que ce problème de propriété croisée est une question qui ne se pose pas. Il faut également à ce que les petits registres puissent se construire et notamment avoir accès aux noms qui sont disponibles. Je m'appelle Jay Scott Evans. Je pense que la propriété croisée est une mauvaise idée. J'étais dans une réunion où on parlait, il y a des abus dans le cas où des enregistrements ne sont pas remis dans le système. On a une période de grâce, mais ce qui se passe, c'est que, par exemple, ils n'effacent pas les noms, ils les gardent. Il y a un abus du système actuellement. Et je pense qu'il y aura des abus dans le futur. Par exemple, si j'ai un ordinateur Apple et qu'il est en panne, dans le cas de Richard, lui, il achète son propre ordinateur. Et dans ce cas-là, le gouvernement américain aura des problèmes avec la politique en place. On parlait d'Apple, pas tellement des registrants. Il ne faut pas comparer les pommes avec les pommes en ce qui concerne les ordinateurs. Rapidement, je demande la question. Pourquoi est-ce qu'un registre ou un registraire ferait plus dans ce domaine qu'un registraire qui n'est pas associé à un registre? On aura de plus en plus d'instances où cela va arriver. Pourquoi est-ce qu'un registre retirerait son nom de la circulation? Je ne vois pas la logique. Quel serait l'incentif économique? Par exemple, c'est pour la publicité. Par exemple, il y a les problèmes de politique du domaine privé. Donc, il faut faire attention aux applications pratiques dans ce domaine. Il y a des experts sur l'aspect privé de la loi. Il y a un point, c'est un point important à mon avis. Je peux faire ce que vous me suggérez à propos des registraires qui sont affiliés avec moi. Je peux prendre les noms, chaque nom des TLD, je vais prendre un prix fixe. Je vais avoir un accord avec un registraire non affilié. Je vais acheter ces noms. Personne d'autre peut l'acheter. Et je vais payer 5 centimes par nom. Et si j'ai des problèmes de conduite dans ce domaine, notamment l'accumulation des noms, à mon avis, il faut séparer l'accumulation des noms et l'intégration verticale. Merci, Peter. Michael Edge. Donc, je vous remercie pour ce format. Et je pense que ce format est très intéressant. La plupart des gens sont d'accord. Et je remercie ICANN d'avoir un webinaire sur ce sujet. Il est certain que ce n'est pas en noir et blanc, c'est plutôt gris. Ma question est la suivante. On a entendu parler du débat. Qui a raison? Qu'est-ce qui se passe si vous avez tort et si vous vous trompez? Quelles en sont les conséquences? Si votre registre devient le supermarché et fait du mal au registraire, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Ma réponse, en bref, là-dessus, c'est que si un registre a une puissance sur le marché, il y a des lois nationales qui sont mises en place pour limiter les conséquences, notamment la charte d'ICANN, a vu que domaine de la compétition. Mais il y a environ 6 ou 9 mois, est-ce que la limite des 100 000 peut être la réponse à vos questions? J'en suis pas sûr. Quel est le cas où vous êtes, par exemple, propriétaire de 100 000 noms du type de supermarché Walmart? Les règles s'appliquent à tous les joueurs. Et malgré ce que Richard a dit, on ne parle pas, par exemple, de petits nouveaux registres et on ne veut pas leur faire du mal. Non, ce qu'on veut, c'est que, en fait, le règlement s'applique à tous. Et que tous les règlements doivent être les mêmes pour tout le monde. Si jamais vous voulez faire des règles asymétriques, dans ce cas-là, il faut des études économiques précises. Monsieur le Président, un point. J'ai 30 secondes pour vous le dire. On a participé à ICANN depuis 11 ans et on a essayé d'intéresser le secteur privé. Si ICANN fait une faute, les gouvernements vont prendre leur place. Donc on ne veut pas remettre en question les 11 dernières années et on ne veut pas que ICANN fasse des fautes là-dessus et que les gouvernements prennent leur place. Mademoiselle Beur. Je représente des registres. Nous avons appris cette semaine que la proposition de Richard a inclus ce code de conduite, les sanctions, les limites et l'information associée. On a entendu les économistes, les experts, et ils nous ont dit que il y a certains noms en amont ou en aval des règlements, l'intégration verticale, qu'il faut des innovations, que ça soit moins cher. Ce que Richard nous a dit, il ne veut pas que ça soit tout à fait efficace. Il veut juste utiliser les données pour lui. Il veut juste changer les modalités d'application, pas la politique. Ma question est la suivante. Si on n'arrive pas à avoir les économies économiques d'intégration verticale, quelles seront les modalités d'application les plus simples pour ICANN?
Là, on parle de certains garde-fous. Ils ne sont pas tellement compliqués. Ils devraient avoir des comptabilités séparées, par exemple. C'est lorsqu'un registre détient un registre, les bénéfices des uns ne peuvent pas servir au registraire, par exemple. Ce ne sont pas des garde-fous très compliqués. Et vous simplement pouvoir, pour que les nouveaux registres puissent distribuer leurs produits. Donc, je ne vois pas pourquoi ces garde-fous éliminent toutes les économies d'échelle. Elles sont un peu plus lourdes, si c'est nécessaire, pour que cette politique avance dans le sens que nous souhaitons, eh bien, on serait d'accord. Bon, mais en fait, je ne vois pas pourquoi elles élimineraient les avantages d'intégration. Je dois dire que ces économies d'échelle, c'est le partage des informations, vous l'avez dit. Vous avez dit qu'on était prêt à l'abandonner. Donc, si vous vouliez une intégration verticale, là, vous pensez certainement à cette disposition concernant l'égalité d'accès dans le contrat. Là, je ne vois pas de quelle information il s'agit ici. La majorité de l'information vue par le registre sont dans le domaine public. De quelle information s'agit-il? Je crois que Brian... Martin Mutenler, je suis du regroupement des utilisateurs non commerciaux. J'espère que je serai toujours intéressé par ce sujet parce qu'on va en parler également. Donc, c'est une question, pas une véritable question dans mon cas. Dans quelle mesure est-ce que ça nuira à l'intérêt public si, lors du nouveau GTLD, continuer dans le sens existant sans, vu les questions de séparation? Et donner un développement de politique et de revoir la question à ce moment-là grâce au tout-puissant GNSO. Donc, en fait, on ne sait pas, en fait, qu'est-ce que vous voulez dire là par politique existante? Brian, est-ce que vous voulez répondre à cette question? En quoi ça nuirait si on commençait dans le système, dans le cadre du système existant et qu'on modifie graduellement? Enfin, on ne pense pas qu'il y aurait d'effets nuisibles. Ça, c'est une réponse directe. Nous pensons que les registres continueraient à être protégés. Il y aurait tous les avantages des prix, par exemple. On a eu quelques préoccupations sur le procédé. Et en ce qui concerne les bases arrières, est-ce que ça serait une poursuite de la politique actuelle? Et cette politique elle s'applique déjà, si vous voyez le comportement en ce qui concerne les fournisseurs de services d'arrière-base. Donc, on pourrait voir la question de la mise en œuvre, mais en ce qui concerne cette question, on a déjà dit, on en a parlé, vu la façon des choses se passent aujourd'hui déjà. À vous. Donc, ce que la proposition du regroupement des registres et des règles plus restreignantes, plus contraignantes, il n'y a pas de politique sur les arrières-bases, les interdictions contre les revendeurs ne s'appliquent pas. Leur proposition augmenterait les restrictions sur les nouveaux petits registres que nous faisons actuellement. Donc, en réponse à votre question, la partie nuisible, c'est que les nouveaux TLD auront moins de concurrence, seront moins capables d'agir en concurrence. Est-ce que vous êtes indépendant ou est-ce que vous allez faire connaître votre affiliation? Je suis avec Newstar et j'ai une opinion forte marquée là-dessus. On a déjà travaillé là-dessus. En ce qui concerne la question des économies d'échelle au niveau financier et du marché, c'est ce que les économistes d'ICANN l'ont déjà dit. C'est un élément essentiel que les économies d'échelle nous donnent bien un avantage pour le consommateur. Et en fait, il y a des différences. Pardon. Donc, les registres, actuellement, doivent fournir des services sur une base équitable à tous les registraires accrédités par ICANN. Le contraire n'est pas valable. Dans l'exemple Syntronic, il n'était pas accrédité par ICANN. ils n'étaient pas TLDR. Ils n'étaient pas obligés de faire une prestation de service par le biais de canal de distribution. Si on revient sur l'exemple Apple, Apple n'est pas obligé par une autorité tutelle de vendre par le biais de certains revendeurs. Ils peuvent choisir leurs revendeurs. Ils peuvent les traiter de façon différente. Il y a des avantages financiers, il y a une économie d'échelle. Donc, si on va dans le sens d'un marché intégré verticalement, est-ce que ça ne doit pas aller dans les deux sens? Et pour les nouveaux TLD, est-ce que si notre objectif est de faire que le registre des nouveaux TLD, et si il faut qu'il y ait un accès égal aux consommateurs, est-ce que l'intégration registre-registraire ne devrait pas proposer tous les TLD? Non. Non, je ne pense pas. Je pense qu'on veut rajouter des couches et des couches de réglementation. Là. Le marché, l'effet du marché fonctionne. Apple vend par d'autres revendeurs. Si on acceptait cet argument, Apple en fait ne devrait pas revendre par des revendeurs comme Costco. Mais si Apple ne pouvait vendre que par le biais de ses propres commerces et s'il pouvait augmenter, il pourrait dominer le marché. En fait, Apple n'est pas obligé de passer par ses canaux de distribution, mais il le fait. De même pour les registraires, parce que les registraires ajoutent de la valeur. Rapidement, très rapidement, je vois le point clé là, c'est que Apple peut choisir parmi ses revendeurs. Ils ne sont pas obligés par contrat d'utiliser un groupe particulier de registraires, de revendeurs, quel que soit le mot. Et comme opérateur de registre, il n'y a pas d'efficacité financière à me servir de les traiter tous de la même façon. Je suis Marilyn Kay et je voudrais faire connaître mon rattachement. Je suis rattachée en tant qu'enregistrant. Je voudrais que ces deux membres du panel me donnent comment les registrants seraient impactés parce que la concurrence, pour le jeu de la concurrence, que ce soit les chips, les gâteaux, les bonbons, tout ça, ça peut se remplacer. Enfin, les noms de domaine sont interchangeables. En fait, mais je comprends pas. Là, je pensais qu'on allait parler et en fait, j'ai lu la déclaration de responsabilisation, l'engagement de responsabilisation. Et je voudrais leur demander à ces deux membres du panel. Et cette déclaration a été prise en compte dans ce domaine, dans leurs propositions respectives. Est-ce que ça reconnaît que la concurrence, ce n'est pas un mot qui existe dans le vide? C'est aux côtés de protection de la consommation, des consommateurs. Brian. Merci. Merci de cette question. Et je pense qu'un des éléments souffrants pour moi dans cette discussion, c'est qu'un grand nombre des éléments que nous sommes sur l'augmentation des prix, les abus, la paucité de domaine a été mise en deuxième position. Et s'il n'y aurait pas de problème, il n'y a pas de problème. Mais en fait, là, on contourne complètement le problème. L'impact sur les consommateurs est important du point de vue de la protection des consommateurs. Je pense qu'il y a eu un débat qui est complètement séparé de cette discussion sur la concurrence. Et ICANN a une responsabilité. ICANN a créé ses politiques vis-à-vis de la politique de l'anti-essai. Et il y a donc une discussion totalement séparée là. Richard. Donc, comment est-ce qu'on tient compte de l'intérêt du public? Oui. Pour nous, la concurrence bénéficie le public. Les nouveaux TLD seront en concurrence avec les TLD existants. Et en fait, ce qu'on voit vraiment qu'on évolue de ce système de monopole ou de duopole ou d'oligopole. il y aurait une concurrence entre les TLD et donc chaussures avec habillement, Mobi avec point roaming. Donc il y aura une concurrence et il y aura une réduction des prix. Et bon, si on est très clair là sur le plan, il ne s'agit pas de noms à 7 dollars. Il y a des noms qui coûtent 7, 8, 9 dollars. La plupart de ceux qui appellent, qui choisissent des noms, qui sont, dépensent des 10 000, même 100 000 ou plus de 100 000 dollars. Nous pensons que les nouveaux noms de domaine de premier niveau vont réduire ces prix. Est-ce que je peux? Je voudrais vous demander, Richard, si cette proposition interdira, empêchera les registrés d'utiliser les noms à haute valeur et de les mettre sur le marché par un autre biais. Par exemple, est-ce que ça sera d'une façon égalitaire ou sous la forme d'un marché de gros? Donc, est-ce que les registres, la question de la participation d'un registre dans un registre n'a aucun effet là-dessus? Si un registre pense qu'il peut mettre un prix de 20 000 dollars sur un nom, et ça n'a rien à voir avec la participation. Donc, si un registraire veut réserver des noms comme certains l'ont fait, ils le feront. Donc, cette question d'intégration verticale est complètement séparée. Là, on n'en a plus de temps, là, le temps est écoulé. Donc, c'est vraiment la dernière, parce que est-ce qu'on peut... non, là, désolé, mais je ne peux plus. Et, non, question rapide.
Ma question a à voir avec le débat qui nous intéresse, notamment, on s'est éloigné des propriétaires individuels et des noms de domaine. Par exemple, est-ce que les choses dont on a parlé sont un fait accompli ou y a-t-il encore des possibilités de changer les recommandations pour ICANN dans les noms de domaine? Si on parle du modèle de registre simple, on n'a rien qui est encore de définitif. J'en ai parlé parce que je voulais prendre un exemple, parce qu'il est possible qu'il y ait des problèmes pour les consommateurs. Donc, en fait, vous pouvez expérimenter avec les négociations de protocole. Mais il y a beaucoup de marques qui vont vendre au public et à leurs employés, qui veulent vendre au public par le biais du nom de domaine. Et on n'a pas encore parlé des considérations d'application dans ce domaine. En fait, on n'a plus de temps. Désolé. Donc, vous êtes le comité directeur. Vous avez entendu les arguments du personnel et vous devez prendre une décision. Quels sont les gens en faveur de la position de gauche? Quels sont ceux qui sont en faveur? Disent oui. Et là, maintenant, dites ah. Oui, c'est pas net. Merci beaucoup. On va utiliser ce processus de nouveau. Merci beaucoup de votre attention.
Ladies and gentlemen, we'll be starting our next session in a few moments.
Bien sûr, recommencer notre séance dans quelques moments, qui aura à voir avec les applications des nouveaux GTLD.